Joanne se retourne dans son sommeil. Elle ne doit pas très bien dormir. Un autre souvenir déferle.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes Karen ?
La femme se retourne avec des gestes lents, calculés pour être langoureux. Elle est grande, très grande. Sans doute le dépasse-t-elle de quelques centimètres. Elle est brune également, très brune.
Oui, je suis Karen. Émile, donc.
Il acquiesce. Il est affreusement mal à l'aise. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle il est ici. Il a les mains moites, une rage dans la poitrine, une envie de faire payer la terre entière. On m'a volé Laura. Un type m'a pris Laura. C'est au cours d'une insomnie qu'il a créé ce compte sur un site de rencontres pour femmes adultères. Il a fait défiler les profils, puis il est tombé sur celui de Karen. On y voyait la photo d'une femme brune, plutôt élancée, 40 ans, mariée depuis 10 ans, besoin de piment. Elle précisait rencontrer dans les bars à cocktails uniquement. Si affinité, elle pouvait se déplacer chez sa conquête, mais elle acceptait aussi de passer la nuit à l'hôtel. Elle les préférait jeunes, moins de 30 ans. Il a eu envie de gerber en lisant sa description. Mais l'envie d'elle a été plus forte, violente. Un besoin de lui faire payer pour Laura. Ils sont entrés en contact, se sont donné rendez-vous dans ce bar à cocktail discret où elle ne risquait pas de faire des mauvaises rencontres. Monsieur est notaire et a de nombreuses relations en ville.
Ne sois pas timide, assieds-toi.
Elle lui désigne le haut tabouret et il y monte avec l'impression d'être un enfant apeuré face à une femme impressionnante.
J'ai commencé sans toi.
Une coupe de champagne trône devant elle. Elle pose une main sur son genou avec un air de propriétaire.
Tu veux boire quoi ?
Il est pris de court. Il répond la première chose qui lui vient à l'esprit.
Comme toi.
Elle commande pour lui, puis elle se tourne pour l'observer en détail.
Dis-moi, t'es tout juste sorti du berceau, toi ?
Il bégaye un Et ça la fait rire.
Ce que t'es mignon. J'adore les jeunes hommes comme toi. Vous êtes encore si innocent et si pur.
Elle est à l'aise. Elle rit très fort. Elle doit en rencontrer des tonnes des hommes comme lui, des jeunes, des timides. Elle est habituée à mener la barque.
Alors dis-moi, qu'est-ce qu'un jeune homme comme toi fait tout seul sur ce site ? T'as pas de petite chérie ?
Sa coupe de champagne est arrivée et il y trempe les lèvres avant de répondre de façon brève.
Pas en ce moment, non.
Elle le sonde avec des yeux qui le transpercent, qui semblent lire à travers ses pensées.
Tu étais amoureux et elle est partie ?
Il ne réussit pas à mentir. Son expression désarmée le trahit.
J'en étais sûr, déclare Karen. T'es pas le premier, tu sais. J'en ramasse pas mal des jeunes oiseaux blessés.
Elle a un air placide.
Bah, tu sais, si je peux apporter un peu de réconfort.
Après ça, il essaie de reprendre un certain contrôle de la situation. Il l'interroge lui aussi, mais il l'avouvoie. Il se trahit.
Et votre... ton mari ?
Elle le regarde avec un air attendri, comme s'il ne pouvait pas comprendre, comme s'il était trop innocent.
Bah, tu comprendras tôt ou tard. Le mariage, c'est un bien grand mot qui ne signifie plus grand-chose aujourd'hui.
Puis elle ajoute, comme pour se justifier, avec un petit air peiné.
Je suis avec un notaire. Ça n'aide pas. Le mariage, pour lui, c'est davantage une histoire de paperasse et de partage des biens.
Ils boivent plusieurs coupes de champagne avant qu'elle ne pose de nouveau une main sur son genou. En Mantes ? Le bar à cocktail est situé en dessous d'un hôtel. Ça n'a rien d'un hasard. Karen connaît parfaitement son terrain de chasse. Ils prennent une chambre sous le nom d'Émile, puis ils se jettent sur le lit à peine la porte fermée à clé. Karen porte de la belle lingerie, aguichante mais subtile. Elle doit coûter une fortune. Émile n'en a jamais vu de si belle. Pourtant, Karen n'est pas si douée qu'il se l'est imaginé. Pas aussi expérimentée. Ou bien c'est lui le problème. Peut-être s'est-il imaginé retrouver la même chose qu'avec Laura, dans les bras de cet inconnu qu'il ne parvient même pas à respecter. Il est déçu ce soir-là. Il jouit sans plaisir. Il se jure de ne plus jamais recommencer. Elle ne l'a pas fait exprès, mais elle a tout sali. Le mariage, c'est un bien grand mot qui ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. Il n'est pas d'accord avec elle. S'il avait épousé Laura, ça aurait signifié beaucoup. Ça n'aurait pas été vide de sens. Elle a vraiment tout sali.
T'as bien dormi ?
Oui, bien, et toi ?
Ils mentent tous les deux et ils le savent. Il l'a entendu remuer toute la nuit. Elle a des cernes bleues sous les yeux. Même son chapeau noir ne parvient pas à les masquer.
On rentre à Artigues alors ?
Oui.
Elle porte un de ses pantalons noirs trop larges et un débardeur de la même couleur. Émile garde les yeux rivés sur son guide de randonnée. Son doigt suit l'itinéraire qu'ils prendront aujourd'hui.
« Tu me laisseras vérifier tes points de suture avant de partir »,
ajoute-t-elle seulement. Les cataplasmes sont tombés tout seuls dans la nuit. Il a des fragments d'ortie séchés sur son coude et dans ses cheveux, mais Johan souffle dessus.
« Alors ?» demande-t-il avec anxiété.
Elle esquisse une moue qu'il ne parvient pas à interpréter.
« Ça suinte un peu. »«
C'est grave ?»
Elle ne répond pas vraiment à la question. À la place, elle dit
« On sera au camping-car ce soir. Il y aura du désinfectant là-bas. »
Ils ont oublié de prévoir du désinfectant dans leur gros sac à dos. C'est une véritable erreur de débutant. Heureusement, ils ont pris quelques trucs utiles, comme des bandes de gaz. Johan y enroule son coude et lui fait un turban blanc sur la tête.
« Je dois avoir l'air malin comme ça. »
Il maugrait pour la forme. Il ne sait vraiment pas comment il s'en sortirait sans elle. Ils traversent de nombreux petits hameaux sur leur chemin, s'arrêtent manger dans un champ à côté de deux chevaux qui les observent avec curiosité. Johan passe un temps inimaginable à les caresser, si bien qu'Émile finit par s'endormir à l'ombre des arbres. Il réalise qu'il n'a jamais autant dormi que depuis qu'il est parti dans les Pyrénées. Ça fait un bien fou. La chaleur diminue lentement alors qu'ils entrent dans Artigues. Il était temps. Émile commence à avoir mal au crâne. Il sent bien que ses poings ont suinté sur son crâne sous la gaze. Il espère qu'il n'est pas en train de faire une infection. Johan marche devant. Elle semble pressée d'arriver. Retrouver le parking près du petit ruisseau lui procure un bonheur intense. Comme s'il rentrait à la maison. Comme si c'était chez lui. Il ne pensait pas que la stabilité et la familiarité d'un lieu lui manqueraient. Pourtant, il est heureux de retrouver le camping-car, la légère odeur de renfermé qui y règne, le bruit si particulier du ruisseau et des graviers sous les pas des randonneurs.
« Ah !»
laisse-t-il échapper en entrant dans l'habitacle. Johan se dirige directement vers le placard mural et en sort la table et deux chaises pliantes. Ce soir, ils partageront un repas autour d'une table et ce sera un vrai luxe.
« Tiens, installe-toi, je vais désinfecter tes plaies. »
La table et les chaises sont installées. Johan a sorti la trousse à pharmacie. Elle fouille à l'intérieur avec un air de connaisseuse. Il hume l'odeur âcre de l'alcool à 90 degrés. Ça lui rappelle son enfance et ses multiples chutes à vélo. Sa mère râlait à chaque fois. Elle aimait bien lui faire peur. Elle faisait les gros yeux et le menaçait.
« Attention, Émile, si tu continues à rouler si vite, tu n'auras bientôt plus de sang. »
Au début, il la croyait, il paniquait. Il demandait
« Il m'en reste plus beaucoup ?»
Et elle faisait une moue qui signifiait qu'il était mal barré. Ça le calmait un temps, puis il recommençait à rouler vite. C'est ce qu'il raconte à Johan pendant qu'elle tapote son crâne avec l'alcool à 90 degrés. Ça a l'air de l'amuser. Elle dit même «
Les petits garçons sont de vrais casse-cou. On ne devrait jamais les laisser deux secondes sans surveillance. »
Il se demande si elle en a connu beaucoup des petits garçons. Elle n'a jamais eu de petits frères. Puis, il se rappelle qu'elle était gardienne dans une école. Elle a dû en voir des genoux écorchés, des lèvres fendues et des sourcils à vif. Elle a dû en houspiller des gamins en short, des gamins espiègles avec de hautes chaussettes blanches. Prendre une vraie douche est le second bonheur de la journée. Le troisième sera de retrouver un bon matelas au moment de dormir. Ils n'ont pas vidé leur sac à dos. Ils se disent qu'ils le feront demain. ils ont préparé un véritable repas à partir des boîtes de conserve qu'ils ont retrouvées dans le camping-car sous l'évier. Une salade de tomates et de cœur de palmier, des champignons de Paris sans saveur et une préparation à base de lentilles et de carottes.
Demain, il faudra refaire quelques courses.
Ils mettent la table, allument des bougies car il commence à faire sombre. Puis ils s'assoient l'un en face de l'autre.
Bon, dit Johan.
Il a peur qu'elle n'aborde le sujet qu'il redoute, mais elle ne le fait pas. Elle demande.
Dans quel coin on part demain ?
Bonne question.
Ils reprennent leur mastication silencieuse jusqu'à ce qu'Émile propose.
Ça pourrait être à ton tour de choisir.
Je
pourrais te prêter mon guide des Pyrénées ce soir. Tu étudierais la question.
Elle acquiesce, avale une bouchée de lentilles.
Oui, d'accord.
Après le repas, ils prennent des thés assis à leur petite table. L'endroit est toujours aussi reposant. Les criquets, le bruit de l'eau qui dévale entre les rochers, un ululement de hibou de temps en temps. Johan a ouvert le guide de randonnée devant elle. Elle tourne les pages, suit les lignes du bout des doigts, fronce le nez pour réfléchir, relève la tête pour boire une gorgée de thé. Émile reste silencieux. Son stylo gratte le papier de son carnet noir. Il écrit quelques lignes sur la journée qui vient de s'écouler, sur le bonheur de retrouver leur parking et le camping-car. Lorsqu'il relève la tête, Johan a refermé le guide des Pyrénées. Elle a les deux mains autour de sa tasse de thé. Elle attendait visiblement qu'il termine d'écrire pour ne pas l'interrompre.
Alors, t'as décidé d'un lieu ?
Oui, on va à Mossette.
Ce nom ne lui dit rien. Il n'a pas encore parcouru la totalité de son guide.
Pourquoi Mossette ? Demande-t-il.
Il est curieux de savoir ce qui l'attire dans un lieu particulier plutôt qu'un autre.
C'est un village de l'époque médiévale perché en haut d'une colline rocheuse.
Ça me semble sympa.
Il paraît que la flore est superbe tout autour.
Raison de plus.
Le silence retombe. Johan étouffe un bâillement, annonce.
Je crois que je vais aller dormir. Je prends la banquette en bas.
Elle s'apprête à se lever, alors il se jette à l'eau.
Johan.
Il ne pense qu'à ça depuis hier soir. Il faut bien qu'ils en reparlent.
Concernant cette idée de mariage,
elle se rassoit doucement en face de lui. Elle pose ses deux coudes sur la table, ses mains bien à plat.
Oui ?
Elle le regarde avec attention. Elle attend sans le presser. Il s'enfonce dans sa chaise, cherche ses mots.
C'est une solution. T'as raison, mais...
Mais ?
Les flammes des bougies dansent sur son visage. Elles allument une petite lueur dans ses yeux qui lui paraissent d'ordinaire si ternes. Ils ne le sont pas tant que ça. Elle pourrait être jolie. Elle pourrait être une belle mariée. Un jour, elle pourrait connaître ce bonheur, mais pas comme ça, pas dans ces conditions.
Je peux pas te demander de faire ça.
Elle reste immobile. Aucune émotion ne traverse son visage.
Tu ne demandes rien ? C'est moi qui te l'ai proposé.
Tu sais ce que je veux dire.
Non.
Il pousse un soupir, s'enfonce encore plus profondément dans sa chaise.
Pour moi, c'est simple. Il suffirait que je signe ces papiers. Je serais certain d'être libre jusqu'à la fin grâce à toi. Et puis je mourrais et on n'en parlerait plus. Tu m'aurais rendu un fier service et je t'en serais éternellement reconnaissant, par-delà la mort en tout cas.
Il prend quelques secondes pour déglutir et chercher ses mots.
Pour toi, c'est différent. Ta vie va continuer. Je sais pas ce que tu feras, mais peut-être bien que tu retourneras auprès de Léon ou que tu rencontreras un autre homme un jour.
Elle ne scie toujours pas.
Et ?
Et alors, tu peux pas te marier avec moi. Tu peux pas être veuve à 29 ans.
Elle a toujours les coudes sur la table et le regard bien droit devant elle, fixé sur lui. Elle répète en insistant sur les mots.
Je te l'ai proposé. Je suis prête à le faire.
Il secoue la tête. Il a l'impression qu'elle ne comprend rien.
tu peux pas gâcher cette chose avec un inconnu.
Quelle chose ?
C'est quelque chose qu'on ne fait qu'une fois. Qu'une fois dans sa vie.
Elle ne bronche pas. Est-ce qu'elle s'en fiche totalement ? Est-ce que tout ça n'a aucun sens pour elle ?
Je suis prête à le faire,
déclare-t-elle encore. Malgré Léon ?
Malgré Léon.
Le silence retombe. Il regarde son visage inexpressif. Il aimerait savoir ce qu'il cache, ce que Léon a fait.
On en reparle ? Demande-t-elle. Je suis vraiment épuisée.
Il hoche la tête. Johan se lève et souffle sur la moitié des bougies pour les éteindre.
Vieux, me laisse pas tout seul maintenant. Je te préviens, je suis mort de trouille.
Renaud transpirait à grosses gouttes. Il passait et repassait un mouchoir déjà humide sur son front.
T'aurais pas dû mettre ton costume si tôt,
avait maugréé Émile. Il faisait 30 degrés, et Renaud était tellement stressé qu'il avait voulu enfiler son attirail de mariée une heure avant la cérémonie. Ils étaient tous les deux dans sa chambre d'enfant. Celle-là même où ils avaient connu leur première nuit blanche, leur première confidence, leur premier film. La chambre qu'ils avaient transformée en atelier de vélo ou en tatami lorsqu'ils étaient d'humeur bagarreuse. Il y avait encore des peluches sur le lit de Renaud et des photos de classe au mur. C'était étrange de le voir si grand et élégant sur le point de se marier au milieu des vestiges de son enfance. Émile avait été nommé garçon d'honneur aux côtés d'un cousin de Renaud. Les demoiselles d'honneur avaient été choisies par Laetitia, sa sœur et une amie.
« Ouvre la fenêtre, s'il te plaît, Émile !»
Il s'était exécuté. Renaud était au bord de la syncope.
« Qu'est-ce qui te panique autant ? T'es au courant qu'elle va dire oui, n'est-ce pas ? »
« Ferme-la !»
Renaud n'était pas d'humeur à plaisanter. Dans une heure, tous les regards seraient tournés vers lui et il épouserait Laetitia.
« Tu as ta fleur ? »
avait-il demandé à Émile en s'installant sur le rebord de la fenêtre.
« Hein ?»
avait-il répondu, juste pour le faire paniquer un peu.
« Ta fleur ! Ta fleur à la boutonnière ! Ne dis pas que tu l'as oubliée !»
Il avait sorti sa fleur rouge de la poche de sa chemise.
« Elle est là, détends-toi !»
Laetitia avait réglé d'une main de maître chaque détail de son mariage. Elle avait voulu créer un dress code pour l'ensemble des invités afin que les photographies soient réussies et dans le thème du mariage. Les costumes des hommes ainsi que les robes des femmes devaient être noirs. Elle autorisait quelques motifs blancs mais pas trop voyants. Chacun devait agrémenter sa tenue d'un accessoire rouge. Renaud avait demandé à chacun de ses convives masculins d'accrocher une fleur rouge à leur boutonnière. Lui-même portait un nœud papillon rouge et le liseré de sa veste de costume était coquelicot. Émile était pressé de voir Laura dans sa tenue de fête. Elle avait boudé en découvrant le dress code imposé, mais elle avait joué le jeu. Elle avait acheté une jolie robe noire aux allures de tutu qui s'arrêtait au-dessus des genoux et elle avait dégoté une large ceinture écarlate avec un gros nœud sur le côté. Il était certain qu'elle serait splendide. La mère de Renaud était venue toquer à la porte de la chambre et elle avait éclaté en sanglots en le voyant dans son costume.
« Tu es si beau !»
Sur le parvis de l'église, Émile s'était retrouvé noyé au milieu d'une masse noire et rouge. Tout le monde avait joué le jeu. Il avait retrouvé leurs amis communs sur les marches de l'église, cherchant Laura du regard. Laetitia était apparue dans la foule, apprêtée comme une princesse. Elle portait une large robe bustier d'un blanc éclatant qui descendait en cascade jusqu'à ses pieds. Son chignon était agrémenté de petits papillons rouges. Émile avait ri en s'imaginant la réaction de Laura. Il la voyait déjà grimacer en songeant très fort, trop fort.
« Alerte, faute de goût !»
La vue des papillons la ferait tourner de l'œil.
« Laura n'est pas là ?»
avait-il demandé à la cantonade. Toute leur troupe se tenait là, mais il manquait toujours Laura. Un des camarades de fac de Renaud lui avait répondu.
« Elle était là, mais elle est repartie. »«
Quoi, comment ça, elle est repartie ?»
L'arrivée de Renaud devant l'église, dans la voiture familiale, les avait déconcentrés. Son père et sa mère l'avaient conduit sous les cris et les applaudissements de la foule jusqu'en haut des marches où Laetitia l'attendait.
« Où est partie Laura ?»
avait-il demandé encore alors que tout le monde se massait à l'intérieur de l'église. Personne ne savait. Il l'avait appelée en vitesse.
Oui.
Elle devait être en train de conduire. Il entendait le tic-tac des clignotants à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que tu fiches? Où tu es?
M'en parle pas. Cette mégère m'a envoyé bouler quand je lui ai dit bonjour.
Quoi? De qui tu parles?
Laetitia. Elle était tellement stressée, madame la psychorigide. Elle donnait des ordres à tout le monde et elle m'a envoyé bouler.
Quoi? Mais quand?
Là, à l'instant, quand je suis arrivé devant l'église. Ça va pas se passer comme ça.
Mais où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Me dis pas que t'as décidé de pas assister au mariage à cause de ça. Il avait défailli de soulagement en l'entendant répondre.
Non, j'arrive. Je suis juste parti me changer.
Il n'avait pas compris le sens de sa dernière phrase. Il était trop stressé pour ça. Tout le monde était déjà installé dans l'église et Renaud lui faisait de grands signes affolés. On n'attendait plus que lui. L'hymne nuptial avait retenti dans toute l'église. Les derniers convives s'étaient assis. Émile avait regardé Laetitia traverser la travée centrale au bras de son père dans un silence religieux. Il avait vu les yeux de Renaud pétiller de bonheur. Il l'avait entendu répondre « Oui, je le veux » dans un souffle, tellement il était ému. Il avait cherché les yeux de Laura au moment du baiser, au moment du « Je vous déclare mari et femme ». Il voulait lui faire comprendre avec les yeux « Un jour, ce sera nous ». Mais elle n'était pas là. Il l'avait retrouvée à la sortie de l'église, alors que les mariés sortaient sous les applaudissements et les pétales de roses rouges. Il l'avait retrouvée avec son air insolent et une robe bleu turquoise qui jurait à merveille dans la foule rouge et noire des convives.
« Lo, t'as pas osé ?»
Elle était heureuse, son adorable petite peste. Il n'avait pu s'empêcher d'éclater de rire en l'attrapant par la taille.
« T'es un monstre !»
Elle avait répondu en souriant de toutes ses dents.
« Vivement les photos !»
Elle avait effectivement gâché toutes les photos. Devant l'église, dans le petit parc, sous le chapiteau, sur les marches de la mairie, on ne voyait qu'elle. La tache turquoise au milieu de la marée noire et rouge. Elle prenait toute la lumière et on ne voyait même plus Laetitia. Elle les gâchait si bien que les sœurs de Laetitia et sa mère avaient fini par lui demander explicitement de se mettre à l'arrière de toutes les photos. Elle avait obtempéré tout sourire. Elle avait vu la colère sur le visage de Laetitia et ça lui avait suffi. Après ça, Émile l'avait raccompagnée de force à leur appartement et lui avait ordonné « Tu te changes maintenant !» Elle l'avait fait. Elle n'avait même pas rechigné. Elle n'était pas méchante au fond. Juste une petite emmerdeuse. Une adorable petite emmerdeuse.
Alors, ça fait quelle impression?
Il s'était enfin retrouvé seul à seul avec Renaud à la table des mariés. Laetitia était partie danser avec ses sœurs. Laura discutait avec des amis communs à quelques tables de là.
C'est... J'arrive même pas à y croire.
Il fixait avec émerveillement son alliance à la main gauche.
J'ai l'impression que ça n'est pas ma main.
Ça doit te faire sentir grand, non?
Renaud avait gonflé la poitrine avec fierté.
Oui.
Il était encore ému. Il avait les joues rouges. Émile lui avait souri.
J'en reviens pas.
Moi non plus.
Je te regardais dans l'église, bien droit, sûr de toi. Laetitia qui s'avançait. Je me disais, regarde le chemin qu'on a parcouru.
Le petit gros que j'étais ne m'aurait jamais cru si je lui avais dit qu'un jour il serait là.
Tu vois, il faut toujours y croire.
Renaud avait essuyé un fragment de larme très discrètement au coin de son œil.
C'est un peu grâce à vous tout ça. Si vous m'aviez pas forcé la main à l'époque.
Déconne pas, on te l'a amené sur un plateau certes, mais c'est toi qui as fait tout le reste. Et t'as plutôt bien géré à ce que je vois.
Renaud avait ri avec un sanglot de bonheur dans la gorge. Il n'était pas au bout de ses surprises. Il ne savait pas encore que 3 mois plus tard, le ventre de Laetitia s'arrondirait. Il ne savait pas qu'il s'apprêtait à devenir papa. Karen avait tort. Le mariage a encore un sens. Et il a une certitude maintenant. Il ne peut pas se marier avec Joanne, ni avec personne d'autre. Il est comme ça. Il est comme Renaud. S'il se mariait un jour, il voulait que ce soit fort et beau. Il renoncera au cadeau de Joanne, quel qu'en soit le prix à payer.